Vous êtes sur RTL.
30.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
12h, 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, le dernier adieu de Marseille au boss. Une prime de 1000 euros pour les chômeurs de longue durée, puis le Nobel de la paix attribué à deux journalistes.
Et puis juste après le journal, on échange, on décrypte, on débat comme chaque jour. Tout d'abord Samuel Paty et cet hommage dans les établissements scolaires qui semble loin de faire l'unanimité. Est-ce un hommage impossible? Et puis un autre hommage, celui à Étienne Moujotte, disparu hier. Jean-Pierre Foucault sera l'invité d'RTL Midi.
La météo du jour, c'est avec vous Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
Grand beau temps partout, ça fait du bien.
C'est vrai, presque partout. J'ai quand même un petit peu de grisaille entre l'Auvergne et la région Rhône-Alpes. C'est pas grand-chose, il n'y aura pas de précipitations, mais il n'y aura pas beaucoup de soleil. On va avoir un petit peu de pluie sur la Corse, notamment près du relief. Quelques ondées partout ailleurs, c'est du ciel bleu avec des températures qui vont aller de 14 à 24 degrés entre Saint-Étienne et Ajaccio, 18 pour Tourcoing, 19 degrés à Paris et Montauban et 21 à Brest et à Auxerre.
Merci Valérie, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer donc ce dernier adieu à Bernard Tapie, plusieurs milliers de supporters ont défilé ce matin derrière le convoi funéraire entre le Vieux-Port et la Major, la cathédrale de Marseille, où la cérémonie d'obsèques est sur le point de s'achever, Hugo Hamelin.
Oui, sous le soleil de Marseille, le glas, les cornes de brume des bateaux du port, des écharpes bleues et blanches pour sécher les larmes des centaines de supporters qui ont vécu la cérémonie dehors. À l'intérieur de la cathédrale, Christophe Castaner, Jean-Louis Borloo, Xavier Niel entourent la famille de Bernard Tapie et son petit-fils Rodolphe, qui a pris la parole tout à l'heure.
Adieu Daddy. Tu es chez toi maintenant, ici, à Marseille, chez moi, chez nous. Et avec Hugo, nous irons t'embrasser tous les samedis et te conter les exploits de notre cher club, celui que t'as propulsé au toit de l'Europe, un soir de 26 mai 93.
Alors vous l'avez dit, un cortège de 1500 ultras a réalisé une procession du Vieux-Port à la cathédrale de la Major. Parmi eux, Emmanuel, qui était là en 1993 pour vivre cette fameuse finale à Munich.
On lui rend hommage parce qu'il a mérité. C'est à la fois c'est triste, mais ça reste quand même agréable parce que les gens quand même ont le sourire malgré tout, parce qu'il a amené tellement de choses qu'on ne peut pas partir en pleurant, franchement. Et on est tous là, on était là au stade hier, on est là aujourd'hui et on l'accompagnera et on passera toujours à lui.
La cérémonie est en train de se terminer ici sur le port de Marseille. Le corps de Bernard Tapie sera ensuite transféré au cimetière de Mazargues dans les quartiers sud de la ville. C'était l'adieu aujourd'hui au Phénix marseillais.
Merci beaucoup Hugo Hamelin en direct de Marseille pour RTL. L'actualité c'est aussi, je vous le disais, cette prime 1000 euros bientôt pour les chômeurs de longue durée. C'est ce qu'a annoncé hier soir Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Bonjour Anaïs Bouisseau.
Bonjour.
Attention, ça ne concerne pas tous les chômeurs de longue durée.
Non, pour bénéficier de cette prime de 1000 euros, il faut être au chômage depuis plus de 2 ans et il faut entrer dans une formation directement dans une entreprise sur le terrain avec une promesse d'embauche à la fin. C'est un dispositif mis en place en lien avec Pôle emploi et qui permet de retrouver du travail dans plus de 8 cas sur 10. La prime sera versée en 2 fois, 500 euros en début de formation et 500 euros à la fin. L'idée, c'est d'aider à payer des frais comme les déplacements, un éventuel déménagement pour débuter une formation, puis s'installer dans un emploi stable. Le ministère du Travail table sur plusieurs dizaines de milliers de bénéficiaires, sachant que chaque région pourra encourager et développer les aides au retour à l'emploi.
Anaïs Bouisseau du service économie de RTL.
Autre mesure, inscrit-elle dans le budget de la sécurité sociale, la possibilité de se faire prescrire des lunettes sans passer par la case ophtalmo.
L'idée, c'est de permettre aux orthoptistes de faire seuls ces ordonnances. Sophie Jousselin, ça fait bondir les ophtalmologistes.
Oui, pourtant, aujourd'hui, 71% des ophtalmologistes travaillent déjà avec les orthoptistes qui réalisent la première partie de la consultation, comme le contrôle de la vue. Mais au final, c'est le médecin qui délivre l'ordonnance. Pour Thierry Bourg, le président du syndicat des ophtalmologistes, on doit en rester là.
En 3 ans, un orthoptiste n'a pas du tout pour objectif d'être en autonomie avec des patients sans supervision médicale. On prévoit en plus que l'ordonnance qui serait par l'orthoptiste pourrait être renouvelée par l'opticien après, donc il n'y aurait vraiment plus aucun suivi médical.
Les orthoptistes, eux, évidemment, estiment pouvoir prescrire des lunettes dans des cas bien précis, comme le prévoit le texte. Mélanie Ordinès est présidente du syndicat autonome des orthoptistes.
Ça ne va toucher que les 16-42 ans sur des petites corrections de faible dioptrie. C'est une tranche d'âge qui consulte très peu les ophtalmos par rapport au délai. Donc, on leur permet, là, d'avoir un accès à un professionnel de santé qui va pouvoir orienter, si besoin, vers un ophtalmologue ou s'il n'y en a pas besoin, de partir directement avec une prescription.
Et pour les ophtalmologistes, preuve que l'organisation actuelle fonctionne bien, les délais d'attente ont été réduits, la moitié des rendez-vous s'obtiennent en moins d'un mois.
Et ce n'est pas rien. Sophie Jousselin, merci à vous pour ces explications. Le prix Nobel de la paix, attribué à deux journalistes, une philippine et un russe, pour leur combat respectif pour la liberté d'expression, Émilie Beaujard.
Oui, la journaliste philippine Maria Ressa et le russe Dimitri Muratov. Tous les deux sont des fervents défenseurs de la liberté d'expression dans des pays où la pression contre les journalistes et monnaie courante. Maria Ressa a fondé un média d'investigation en ligne pour dénoncer la violence d'État aux Philippines et la montée de l'autoritarisme. Et Dimitri Muratov, lui, est l'un des fondateurs du journal d'opposition Novaya Gazeta, un journal qui dénonce depuis des années la corruption, les violences, les fraudes électorales et les détentions arbitraires en Russie. Le prix Nobel fait donc le choix aujourd'hui de récompenser la liberté de la presse comme vecteur de paix dans le monde, une première pour l'institution.
Un journalisme indépendant et basé sur des faits vérifiés est indispensable pour dénoncer les abus de pouvoir, les mensonges et la propagande guerrière.
Aujourd'hui, selon Reporters sans frontières, la situation de la liberté de la presse est problématique dans trois quarts des pays du monde.
Émilie Beaujard du service étranger de RTL. Pensez également pour Olivier Dubois, ce journaliste français enlevé il y a 6 mois au Mali par un groupe djihadiste. Reporters sans frontières appelle à la mobilisation et déploie aujourd'hui des banderoles dans 13 villes de France. À une semaine de l'hommage qui sera rendu dans les établissements scolaires à Samuel Paty, cette table ronde organisée aujourd'hui à Blois en marge des rendez-vous de l'histoire débat autour de la laïcité et de la liberté d'expression au collège et au lycée. Christian Panvert, vous êtes sur place pour RTL. Les enseignants que vous avez croisés ce matin sont pour le moins partagés.
Oui, la gêne est palpable quand on évoque le sujet. Et pourtant, il semble y avoir consensus. En apparence, il faut rendre hommage à Samuel Paty. C'est ce que pense d'ailleurs Benjamin, proviseur d'un lycée professionnel dans le Gers.
Dans une société où tout va vite, le temps de l'hommage, de la commémoration, il est important pour tout le monde. C'est un vrai sujet de valeur républicaine, en fait, de vivre ensemble.
Valérie est prof également dans le Sud-Ouest.
Des deux plus belles matières au monde.
Elle ne souhaite pas donner son nom et quand on lui parle de l'hommage du 15 octobre, ça l'irrite un peu.
Nous le faisons tous les jours, lui rendre hommage, monsieur.
Elle regrette les annonces tardives.
Prévenir comme ça, dans l'urgence, c'est moins pertinent que de travailler sur du long terme.
Sa collègue, Pauline, veut aussi garder l'anonymat.
Je prendrai un temps avec mes élèves, même si ce n'est pas préparé, juste pour que la parole se libère, parce qu'il y a encore des choses tendues. Il y a quand même quelques tensions, toujours sur les dessins, la caricature, la place du prof dans la classe, dans la société. Je ne sais pas si on rend hommage au professeur, si on rend hommage à l'homme, mais chaque jour suffit sa peine et on verra bien.
Elle hésite sur la façon de faire, minute de silence ou pas, elle décidera lundi.
À Blois, le reportage de Christian Panvert pour RTL.
Et à 12h40, premier débat de RTL Midi, Samuel Paty, l'hommage impossible. On en parlera avec le maire de Cap d'Agde, première commune à avoir donné le nom Samuel Paty à une école maternelle.
La justice saisie après cette enquête réalisée à Centrale Supélec, la prestigieuse école d'ingénieurs, a répertorié une centaine de cas de viol et d'agressions sexuelles pour la seule année dernière. Ibtissam Amish est étudiante en deuxième année et elle préside la CAPES, une association étudiante qui lutte pour l'égalité homme-femme.
Je suis très contente d'être dans une école qui a osé faire ça. Moi, je pense vraiment que la situation est similaire dans beaucoup d'écoles et que oui, Centrale Supélec a eu le courage de faire cette enquête-là. En tout cas, moi, je lance un appel aux grandes écoles à faire la même chose, à faire une enquête, à demander aux personnes ce qu'elles ont subi et s'assurer que les personnes qui viennent vers elles vont bien, de les accompagner si elles demandent de l'aide, mais elles doivent elles aussi prendre l'initiative d'aller vers les élèves pour s'assurer que tout va bien.
Des propos recueillis pour RTL par Aurélia Valarié. Puis on voulait vous signaler cette scène. Hier soir à l'Assemblée nationale, gros coup de colère de Barbara Pompili, la ministre de l'écologie, qui n'a pas du tout apprécié être appelée Madame le ministre par le député LR Julien Aubert.
Je demande de manière très claire à être appelée Madame la ministre. Si monsieur le député ne respecte pas cela, il sera appelé monsieur la rapporteure et j'en prends la pleine responsabilité.
Non, madame la ministre. Non, non. Si monsieur Aubert vous appelle madame le ministre,
C'est un usage validé par l'Académie française. En revanche, monsieur la rapporteure, ça ne l'est pas. Je regrette. Indépendamment de ce qu'on peut en penser.
Rappel à l'ordre, vous l'entendez, de la présidente de séance. On peut réagir au 32-10.
Oui, on se demande si on est dans une cour d'école parfois à l'Assemblée nationale ou si on est précisément à la Chambre des députés. Vous pourrez réagir évidemment au 32-10. Vous voulez parler de football également ?
Ben oui, avec les Bleus qui ont retrouvé le sourire hier soir. Ça fait plaisir. Victoire 3-2 face à la Belgique.
Ce qui était drôle, si vous me permettez, c'est de lire les commentaires sur les réseaux sociaux à la
mi-temps.
Avant
et après, ben oui.
Je lisais, voilà, les Bleus ont lâché Didier Deschamps. Ils l'ont tellement lâché que les Bleus ont gagné 3-2.
Donc 3-2 et ils étaient menés. C'est là tout le problème, si j'ose dire. 2-0 donc à la mi-temps. Nicolas Georgerot, en fait, tout s'est joué justement dans les vestiaires à la pause.
Oui, le sélectionneur s'est d'abord isolé avec son staff durant 3 minutes dans un petit vestiaire attenant. C'est là qu'il prend la décision de ne pas bouleverser l'équipe. Pas de changement, pas de modification du système de jeu. Puis devant le groupe, selon nos informations, Deschamps pose le diagnostic. On défend les uns après les autres et non pas avec les autres, dit-il. Il demande plus d'agressivité. Il utilise cette formule. On ne griffe plus et surtout, il encourage. On peut le faire, il va le répéter à plusieurs reprises. Cet aspect psychologique, il l'évoquait hier soir après la rencontre.
À part moi, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient penser qu'on allait renverser cette situation. On l'a fait, c'est le mérite des joueurs. Ce match-là fera partie des très très bons moments.
Il y a la prise de parole de Paul Pogba également. Il l'a sous-entendu au micro d'M6 au terme du match.
On va toujours trouver peut-être plus fort que nous, donc on va toujours se surpasser pour battre les meilleurs. Moi, c'est la mentalité que j'ai.
Des mots forts sur l'entraide, sur l'orgueil, surtout en martelant « on est champion du monde ». Il appelle à la révolte, ce qui va conduire à ce scénario dingue. Remonter 2 buts à la pause pour s'imposer. Posé au final, situation inédite sous Deschamps depuis 2012.
Nicolas Georgerot pour RTL, cette finale de la Ligue des Nations, ce sera donc dimanche face à l'Espagne, un match à suivre sur RTL et sur M6.
Exactement, et c'était un formidable match hier avec beaucoup d'émotions. Juste après le journal, donc ce premier débat, Samuel Paty, hommage dans les établissements scolaires, ça semble loin de faire l'unanimité, c'est un hommage impossible, à tout de suite.
RTL. D'accord. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
C'était très bien d'honorer ce monsieur, mais je pense qu'une école maternelle est très déplacée, qu'il y avait beaucoup d'autres endroits qui sont neufs dans Cap d'Ail qui auraient très bien pu servir d'un hommage à ce monsieur.
Je pense déjà de changer d'école, de le mettre à Monaco. Au moins, je sais que, enfin voilà, il est en sécurité.
Moi, je suis très content que ça s'appelle comme ça. Mais c'est pas parce qu'on a peur qu'on doit baisser les bras et abandonner parce qu'on a peur.
Et ses parents d'élèves, ce sont ceux de l'école Samuel Paty de Cap d'Ail dans les Alpes-Maritimes, toute première école maternelle en France à porter le nom du professeur sauvagement assassiné il y a bientôt un an. Bonjour Xavier Beck.
Bonjour.
Et vous êtes le maire de Cap d'Ail. Est-ce que vous comprenez la réticence de certains parents ? On a notamment entendu cette maman qui envisage carrément de retirer son enfant de l'école.
Oui, alors je comprenais les réticences effectivement juste après l'assassinat de Samuel Paty parce que le crime était tellement horrible qu'on pouvait comprendre que des parents soient traumatisés par ce drame. Je comprends beaucoup moins aujourd'hui. D'ailleurs, je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'école Samuel Paty fonctionne tout à fait normalement, sereinement, avec une immense majorité, pas simplement des Cadaillois, mais également des parents qui comprennent tout le sens de cette dénomination. Alors quant aux parents qui voudraient, par crainte, inscrire leurs enfants à Monaco, je peux vous dire que tous des parents d'élèves de Cap d'Ail souhaitent inscrire leurs enfants à Monaco pour une raison très simple, mais ils ne le peuvent pas, c'est que les enfants à ce moment-là vont au collège à Monaco, ils vont au lycée à Monaco et non pas à Nice ou à Menton. Donc il faut être sérieux. Je crois qu'en fait il y a une arrière-garde qui est pour des motifs politiques qui sont de mon point de vue pas très honorable au regard de la cause que nous cherchons à défendre, qui font ce combat derrière.
Je suis pas certain que ce soit des raisons politiques. J'ai l'impression que c'est tout simplement des raisons de peur. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui pensent que ce nom peut exciter, pourquoi pas, des terroristes et que cette école puisse devenir une cible.
Alors, nous avions connu exactement le même phénomène lorsque, au département, nous avions décidé de dénommer le collège de Plégomas Arnaud Beltram, du nom du colonel gendarmerie qui avait donné sa vie pour sauver une otage. Il y avait eu exactement les mêmes mots, les mêmes pétitions employées à la fois par des professeurs et des parents d'élèves. Ça fait 3 ans maintenant que le collège Arnaud Beltrame fonctionne tout à fait normalement. On n'en parle plus du tout. Et si je me suis permis de dire que c'était un combat politique, c'est parce que, ça vous pouvez pas le savoir de Paris, c'est que ceux qui ont animé ce combat à l'époque, il y a un an, ce sont 2 ou 3 candidats aux élections municipales qui ont été battus au mois de mars 2020. Donc, je suis
mais
pas
on entendait
naïf.
Quelqu'un dire « j'ai peur » tout à l'heure dans les témoignages.
C'est une posture et je crois que ce sont les mêmes qui disent qu'ils ont très peur et qui inscrivent leurs enfants au centre de loisirs dans la même école.
Pardonnez-moi, Xavier Beck.
Ils sont pas obligés d'inscrire leurs enfants au centre de loisirs s'ils ont si peur que ça.
On a entendu aussi tout à l'heure dans le journal des enseignants, des profs d'histoire géo qui s'interrogent sur l'hommage qui doit être réalisé vendredi prochain. On sent quand même que ça suscite dans toute la société, que ce soit du coup les enseignants, les parents d'élèves, ça, en tout cas ça ne laisse pas indifférent.
Ça ne laisse pas indifférent, ça ne peut pas laisser indifférent, parce que si on considère comme normal qu'un professeur d'histoire géographique...
Non mais ce que je voulais dire, excusez-moi, c'est qu'on devrait tous en fait rendre hommage... Pour combattre ces terroristes, c'est ça la logique.
Déjà, alors peut-être que nous sommes un peu meilleurs dans les Alpes-Maritimes, mais je constate quand même que le jour de la dénomination, il y avait quelques parlementaires des Alpes-Maritimes qui étaient là pour soutenir Michaël Paty, la sœur de Samuel Paty, qui était présente, mais surtout qu'à la rentrée de septembre, le recteur de Nice a fait le choix de Capdaille et de l'école Samuel Paty pour sa première visite en tant que recteur dans l'académie. Ça veut dire qu'il y a peut-être une prise de conscience, et je suis heureux de constater aujourd'hui d'ailleurs que tous les professeurs de l'école, comme la directrice, comme tous les anciens directeurs de l'école de Capdaille, étaient présents et ont l'air de comprendre finalement la nécessité et l'évidence à rendre hommage et à garder le souvenir de Samuel Paty.
Mais vendredi prochain, il y aura un hommage national dans toutes les classes, mais j'ai vu qu'il n'y aurait pas un cahier des charges strictes, et notamment il n'y aura pas de minute de silence. Et moi, j'ai interprété cela d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on ne veut pas obliger une minute de silence, parce qu'on sait que dans certaines classes, elle ne serait peut-être pas respectée.
Mais pas plus qu'elle ne l'était après l'assassinat terrible de Charlie Hebdo, après toutes les minutes de silence, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'à Capdaille, nous avons souhaité faire autre chose qu'une minute de silence et une marche silencieuse et un rassemblement devant le monument aux morts. Il faut véritablement inscrire dans le marbre le nom de Samuel Paty, qui doit rester dans l'histoire de notre pays comme un professeur courageux. Ça me paraît tellement évident et naturel que j'ai du mal à comprendre. Si
et courageux, vous l'êtes également, Monsieur Beck. Et effectivement, il y a une forme d'honneur à faire ce que vous avez fait dans votre commune.
Je ne le ressens pas comme ça. Je pense que le courage, c'est Samuel Paty qu'il a eu. Et nous, c'est une question pour moi de dignité. Si
de devoir.
Un devoir effectivement, mais de dignité. C'est tellement peu de choses, si vous voulez, ce que nous faisons par rapport au courage qu'il a eu, que je ne pense pas qu'on puisse parler de courage pour nous.
Courage, honneur, dignité, ça peut être aussi des mots voisins. Merci en tout cas, Monsieur Beck, et merci beaucoup de votre engagement. Dans une seconde, nous allons rendre hommage à Étienne Moujotte. Vous avez connu Étienne Moujotte
Bien sûr.
Vous étiez à LCI.
Oui, moi j'étais à LCI, il a créé LCI. Donc oui.
Exactement, en 1994, et on sera avec quelqu'un qui incarne les années TF1, et avec quel succès. Sacré soirée, Jean-Pierre Foucault. La musique, par exemple, de Sacré soirée est quasiment emblématique aujourd'hui. Et Jean-Pierre Foucault nous racontera les années Moujotte. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Il n'y a pas de grande chaîne de télévision qui ne soit en même temps une grande chaîne d'information. Pour être le leader, il faut être le premier en information. Et il y aura donc un effort tout particulier sur l'information.
Ça, c'était en août 1988. Étienne Moujotte évoquait sur le plateau du 20h de TF1 la stratégie justement de TF1. Info et divertissement, c'est en effet à lui qu'on doit ça. Ou encore ça. Sacrée soirée, qui veut gagner des millions, il y en a plein d'autres. À Étienne Moujotte donc, et à vous, Jean-Pierre Foucault, bonjour.
Bonjour, à vous deux, bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous dans RTL Midi. Alors, hier soir, Jean-Pierre Pernaut disait d'Étienne Moujotte, il avait du pif, il sentait la société française. C'est aussi votre avis ?
Tout à fait. Et ce qu'il y avait de particulier chez Étienne, parce qu'elle le connaît bien aussi, c'était un touche-à-tout génial. Certes, journaliste, ça, il mettait toujours ses qualités de journaliste en avant. On vient de l'entendre. Mais c'était un touche-à-tout génial des médias, donc patron de presse, star du 20h, homme de radio, mais aussi créateur de programmes. Et on avait confiance en lui. C'était la force d'Étienne Moujotte, c'est que quand il nous demandait quelque chose, on savait qu'il avait raison. Il avait un flair légendaire. Et il connaissait parfaitement le temps pour tel ou tel programme. Je vous donne un exemple. Pour Qui veut gagner des millions, ce programme est arrivé sur le marché, si je puis dire, fin des années 90. Là, il m'a dit, c'est trop tôt. C'est trop tôt parce que le public ne va pas comprendre qu'on distribue tant d'argent, etc. Déjà qu'il y avait l'étiquette de la téléfrique, il n'a pas voulu. Il a attendu et en 2000, il a dit, c'est maintenant. Et il avait raison, c'était maintenant, c'était en 2000, et l'émission a connu le succès que vous savez. Voilà, c'était un... Je pense qu'il n'y en a plus des mousottes. Je pense que un type qui savait inventer un journal télévisé, une émission de débat, qui choisissait le décor de la moquette d'une mission de variété, voilà, il savait tout faire.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il reste juste Nicolas de Taverneau, aujourd'hui, qui pourrait lui ressembler, ouais. Pourquoi pas, le président d'M6 et d'RTL.
Tout à fait.
Cher Jean-Pierre Foucault, c'est ce que vous sous-entendiez. Ce qui est intéressant et également, c'est bon, le journaliste formidable, l'intuition du journaliste, le flair, etc. Mais cette capacité à pouvoir parler au président de la République et aussi à Jean Pascal, qui était une star de la Star Academy. Et c'est ça aussi, Moujotte.
Exactement. Vous avez tout à fait raison. Et ce qu'il y avait d'intéressant avec Étienne, c'est quand vous le rencontriez dans son bureau, certes, on parlait de télévision, mais il s'intéressait à tout. Moi, quand j'y allais, il me faisait parler d'OM, Pascal. Hein. Mm. Il me faisait parler de politique, il me demandait, alors, Jean-Claude, comment va-t-il, etc. Donc, c'était un touche-à-tout heureux. Il savait tout sur tout. Et c'est pour ça qu'on lui faisait confiance.
Mm. Et vous disiez, il n'y a plus d'Étienne Moujotte. Vous la regrettez, cette télé...
À part Nicolas Taverneau, bien entendu,
mais ça coulait de source. Vous la regrettez, cette télé-là, celle des années 80, 90, enfin plutôt 90 d'ailleurs?
Non, on ne peut pas dire que je la regrette. Je l'ai vécue et j'ai été heureux. Et je dois cette carrière et cette notoriété, bien entendu, à Étienne Moujotte.
C'est lui qui vient vous chercher en 80. Parce que vous êtes à l'Académie des Neufs, qui était un programme formidable.
C'est ça.
C'était formidable, l'Académie des Neufs à 12h30. Mais tout le monde regardait ça à l'époque, c'était rigolo. Mais c'est incroyablement moderne d'ailleurs, avec des figures comme Daniel Prévost et tout ça. C'était extraordinaire, l'Académie des Neufs. Et vous arrivez dans un autre genre, à 20h30, une star le mercredi.
Oui, parce que en réalité, Étienne m'appelle, tout le monde était parti sur la 5. Moi, on m'avait oublié. Je vais vous dire la vérité, vous ne le répétez à personne. Marie-France Brière, lorsqu'on lui a avancé mon nom, elle a dit non, pas sur un gars. Donc, je ne suis pas allé sur un gars.
Il avait peut-être moins le flair, là.
Et je lui dois ma carrière et je l'en remercie. Et Étienne m'a dit, tu restais sur le quai de la 5, monte dans le train de TF1. Et nous avons inventé avec Louvain, avec lui, cette émission de variété qui a été le premier gros succès de TF1 le 2 septembre 87. C'était sacrée soirée. On nous donnait, on donnait la 5 gagnante. La 5 a fait 5, on a fait 40. Voilà, c'est tout simple. Et ça a duré comme ça pendant 265 numéros. Mais sous l'œil attentif, rigoureux d'Étienne, qui réglait l'émission. Vous savez, on avait l'habitude, c'était la belle époque, de faire 40. Un jour, on a fait 38% de part de marché. Il nous a convoqués dans son bureau. Il a dit, les gars, il va falloir vous ressaisir.
Ouais. Ça ferait rêver tout le monde, il faut le dire, pour les auditeurs les plus jeunes.
Et je crois que Francis Bouygues, vous avez dit également, vous avez un visage horizontal, c'est ça?
Voilà, il me dit, Francis Bouygues, il dit, ah, monsieur Bourceau, j'ai beaucoup entendu parler de vous, monsieur Plafou, je vous aime beaucoup, etc. Étienne a eu raison de vous engager, monsieur Couchard. Il me dit, mais ce qui me plaît chez vous, c'est que vous êtes un horizontal. Et je vais vous dire, lorsque Francis Bouygues m'a serré la main, j'ai compris que c'était pas utile que je lui demande un papier. Hein, je savais que le contrat, il était là, dans cette poigne de main. Et quand j'avais appelé Antenne 2 à l'époque en disant, Bouygues me demande est-ce que je peux voir le président Contamine. On m'a dit, mais enfin, monsieur, vous n'y pensez pas, c'est Pentecôte. Nous verrons cela mardi. Ah ben, le samedi, Francis Bouygues m'a reçu avec Étienne Moujotte et l'aventure a démarré là.
Bon, Jean-Pierre, vous êtes formidable. On doit passer une pub avant 13h. Vous voulez rester avec nous un peu au début des auditeurs ont la parole?
Je reste un tout petit peu. Ah. En réalité, je suis loin de chez vous. Je ne vais pas vous dire où pour que.
Non, mais restez, parce que les gens vous adorent.
Oui. Alors, je reste encore quelques minutes volontiers.
Voilà, jusqu'à 13h05, 13h10. Jean-Pierre Foucault pour parler d'Étienne Moujotte. A tout de suite.
RTL.
Il est 13h01.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Avant de retrouver les principales informations du jour, Jean-Pierre Foucault est resté